Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo sur console, sur PC, sur mobile, les controverses, les news de l'industrie, les jeux auxquels on joue, tout ça et plus. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous recevoir à nouveau dans cette émission où on va parler notamment de l'incroyable annonce de nouveaux jeux pour Riot Games qui met enfin son S dans son nom pour de vrai. On va aussi vous parler de la suite de l'affaire Blizzard qui n'en finit plus de rebondir. On a aussi, du coup, puisqu'on va parler de Blizzard, de quelques petites spéculations sur la BlizzCon qui aura lieu la semaine prochaine, quelques jeux qu'on va commenter sur les sorties récentes et plein d'autres petites news sur Stadia, Fortnite, etc. Et je suis Patrick Béja, je vais dire mon nom pour me présenter, c'est poli quand même. Et j'ai le plaisir de recevoir deux co-animateurs aujourd'hui. Un que vous connaissez déjà certainement, enfin vous connaissez les deux parce qu'ils sont formidables et très connus. Mais un que vous connaissez peut-être parce qu'il a déjà été dans l'émission il y a un bon moment, qui nous fait le plaisir de se joindre à nous, de prendre du temps sur sa présence au Spiel, qui est une conférence en Allemagne, et donc tu es dans un des halls au calme, c'est ça Thomas Bido, bienvenue dans l'émission.
Oui c'est ça, je suis dans un coin de hall vide, donc je ne suis ni dans une église ni dans un hall de gare, je suis au Essen-Messe en Allemagne pour le salon Spiel.
Ouais, donc toi t'es analyste chez ICO Partners, et c'est quoi le Spiel du coup? C'est juste un salon de jeux vidéo classique?
Alors c'est pas un salon de jeux vidéo, c'est pas un salon classique, hein. Spiel c'est le plus grand salon au monde du jeu de plateau.
Ah c'est ça, et, d'accord.
Et donc il y a beaucoup de gens qui viennent avec... Il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui ont des gros sacs à dos énormes pour les remplir de boîtes de jeux de plateau. Il y a la Poste allemande a son propre stand dans un coin pour que les gens viennent et s'envoient eux-mêmes les jeux qu'ils achètent sur place. C'est un grand phénomène. Et il y a des connexions avec le jeu vidéo, c'est une des raisons pour lesquelles je suis là. En tant qu'analyste, aussi une de mes spécialités, c'est le crowdfunding. Et donc, du coup, je suis assez souvent sollicité sur des projets de jeux de plateau. Ce qui fait que voilà, j'ai eu plusieurs raisons professionnelles pour venir cette année. Et notamment, je travaille sur le jeu vidéo Northgard, le jeu de plateau basé sur le jeu vidéo Northgard, qui est présenté en ce moment sur le salon.
D'accord. Sympa. Oui, je sais qu'il y a des fans de jeux de plateau. Moi, c'est un truc que je touche pas trop, mais c'est une catégorie qui a le vent en poupe en ce moment, et en particulier sur Kickstarter. Donc, je sais qu'effectivement, c'est une de tes spécialités. Je comprends mieux ta présence là-bas.
Voilà.
Bah super, merci d'être avec nous. On va parler de plein de choses et notamment on va parler des Pégases vers la fin de l'émission, qui est un sujet assez intéressant aussi. Vous découvrirez ça tout à l'heure. Et donc la deuxième personne qui est là avec nous, c'est Lola Guildou, alias la Dev du Dimanche sur YouTube. Salut Lola, merci d'être là avec nous.
Bah salut, merci à toi de m'avoir invité, ça me fait plaisir.
Ça me fait très plaisir que tu sois là. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs?
Ouais, carrément. Donc, comme tu l'as dit, moi, c'est Lola, alias développeuse du dimanche sur YouTube et sur les réseaux. Je suis une game designer qui a décidé de se reconvertir dans le développement de jeux indépendants. Et je partage mon parcours de développeuse sur mon jeu vidéo Propaganda et un autre jeu que je suis en train de développer aussi en parallèle en ce moment. Donc, sur ma chaîne YouTube, à travers un format vidéo qui s'appelle le journal de bord. Donc, c'est assez explicite. C'est vraiment un journal de bord de développement, dans lequel je raconte comment on fait pour développer un jeu vidéo de A, et je l'espère un jour à Z. On verra ce que ça donne. Mais voilà, mon but, c'est de transmettre un petit peu mon savoir et de faire en sorte que ça soit le plus accessible possible.
Super. Bah écoute, on en parlera encore un petit peu en fin d'émission, mais c'est une initiative assez sympathique, donc je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. Avant de commencer dans le cœur de l'émission avec Riot, je voudrais dire juste un petit mot sur le Patreon du Rendez-vous Jeu qui a été lancé la semaine dernière. Il sera actif début novembre, donc si vous voulez participer au financement de l'émission, bah, c'est désormais possible. Si vous voulez financer spécifiquement le Rendez-vous Jeu, vous avez déjà été pas mal à vous lancer dans l'aventure, donc un grand grand merci à tous ceux qui sont déjà patriotes du Rendez-vous Jeu. J'apprécie énormément votre soutien, et si vous appréciez l'émission, ben n'hésitez pas à y aller. À noter, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure, mais à noter que je serai à la BlizzCon, comme je le disais tout à l'heure, la semaine prochaine, et je vais faire des petits éditos, des petits épisodes exclusifs pour les patriotes à ce moment, pour vous donner mes impressions un petit peu weblog et puis impression sur le premier jour. L'épisode du Rendez-vous Jeu normal arrivera le deuxième jour, évidemment, mais on va parler de choses un petit peu différentes peut-être, et ça sera exclusif aux Patriotes à tous les niveaux qui sont sur le Patreon du Rendez-vous Jeu, patreon.com/rdvjeu. Et je suis en train également de mettre en place le test du Discord pour la voix uniquement. Je le mentionne ici parce que si vous voulez suivre la BlizzCon ensemble, la cérémonie d'ouverture par exemple, et en discuter avec des gens sympathiques qui sont aussi patriotes du Rendez-vous Jeu, eh ben vous pouvez aller souscrire et vous serez immédiatement au niveau 2, ajouté au Discord. Si vous faites partie de la communauté, accès au Slack et au Discord, vous serez ajouté. Et donc, ça sera un petit peu avec des gens sélectionnés, on va dire, qu'ils sont sympas et cool, et vous savez qu'ils sont sympas et cool, comme tous les auditeurs, ben enfin un petit peu plus. Donc vous aurez accès au Discord, c'est un petit bonus sympathique comme ça en plus. Donc voilà, ça c'est sur patreon.com/rdvjeu, vous avez accès depuis les notes de l'émission et ça prend 2 minutes pour s'inscrire. Mais il est temps, plus que temps, qu'on parle de Riot et de ses annonces. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que Riot est une des plus grandes sociétés de jeux vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les développeurs de League of Legends qui arrivent à ses 10 ans. Et League of Legends, évidemment, l'un des plus gros jeux au monde, e-sports certainement, et jeux tout court probablement. Et là où c'est extrêmement important, c'est que League of Legends célèbre ses 10 ans, mais Riot est une société qui n'avait qu'un seul jeu pendant 10 ans. Alors on sait, c'est un secret de Polichinelle, à vrai dire c'est même pas un secret, qu'ils avaient de nombreux jeux en développement et qu'ils ont recommencé le développement à de nombreuses reprises sur différents jeux, mais ils n'en avaient jamais annoncé aucun. Et là, anniversaire des 10 ans, une série d'annonces absolument impressionnantes avec, alors je vais essayer de faire la liste, mais si j'en rate, venez me corriger, je crois que je vais tout avoir. D'abord, l'arrivée d'un MOBA sur mobile et console avec le jeu qui s'appelle Wild Rift. Alors, tous ces jeux, ils sont annoncés pour 2020 ou plus. Certains, ils ont même précisé qu'ils allaient go dark, donc ils allaient arrêter de communiquer dessus pendant un moment, mais ils voulaient juste dire et annoncer qu'ils existaient. Donc, ça ne va pas tout être pour tout de suite. Mais donc, le premier, Wild Rift, qui devrait arriver, je pense, en 2020, qui est un MOBA sur console et sur mobile. Là où c'est intéressant, c'est qu'ils prennent une approche qui est de simplifier le MOBA, mais pas pour les joueurs PC, contrairement à ce qu'on fait d'autres. Ils prennent cette approche de simplification de leur jeu qui est dans la tranche, on va dire, un petit peu plus complexe, mais les simplifier pour les consoles et les mobiles, ce qui est peut-être une technique assez intelligente. Ils ont aussi une version mobile de Teamfight Tactics, leur Auto Chess, un nouveau genre tiré du MOBA qui a beaucoup de succès en ce moment. Donc ça arrivera en 2020. Il y a un jeu de cartes qui ressemble beaucoup à Hearthstone, on va dire un mélange entre Hearthstone et Magic, qui s'appelle Legends of Runeterra, Heroes of Warcraft, n'est-ce pas, qui arrive là, qui a eu une bêta ce week-end et qui arrive en 2020 également. Il y aura plusieurs périodes de bêta avec un système de monétisation intéressant. Il n'y a pas de lootbox payante, mais on peut... il y a différents processus pour gagner des cartes. On peut évidemment payer pour des cartes spécifiques ou d'autres choses, et on peut débloquer des cartes au fur et à mesure qu'on joue, et puis on va débloquer des lootbox, donc non payantes simplement, qui vont nous donner des bonus, dont une carte qui s'appelle Wildcard, qu'on peut transformer en n'importe quelle carte. Donc c'est leur moyen de donner accès à tous les aspects du jeu sans avoir de lootbox payante, ce qui est assez malin. Quoi encore ? Là, je vais aller un peu plus vite. un jeu de tir à la première personne qui est entre Overwatch et CSGO, qui est assez joliment foutu visiblement, qui s'appelle le Project A. Il y a un jeu de combat qui s'appelle le Project L. On en avait déjà entendu parler parce qu'ils avaient racheté une société qui faisait ça. D'ailleurs, c'était l'un des fondateurs de l'Ivo. Enfin, et ils avaient un jeu qui s'appelait... Comment il s'appelle ce jeu ? Ah, j'en permets. Bon, c'est assez spécifique aux joueurs de combat qui suivent ça. C'était Rising Thunder, je crois, qui est maintenant en open source. Projet F, c'est un jeu mystère qui ressemble un petit peu à peut-être un Diablo, quelque chose comme ça. Ils ont aussi un jeu de gestion, de manager, de team d'e-sport pour League of Legends, donc sur mobile, un sports manager, comme les football managers. Une série animée qui s'appelle Arcane, qui est vraiment une série animée qui a l'air super bien foutue, etc., etc. Donc, un déluge d'annonces. J'ai envie de me retourner vers Thomas, dont le boulot est de comprendre l'industrie et les annonces. Qu'est-ce que tu fais de tout ça, toi, de ce changement de direction de Riot ? Enfin, changement.
Alors, pour donner un contexte supplémentaire, hein, que finalement, je suis analyste, je regarde tout ce qui se passe dans le marché, dans l'industrie, mais en plus de ça, j'ai travaillé avec Riot pendant 4 ans. On était prestataire de services pour eux entre 2010 et 2014, donc j'ai travaillé sur certains des jeux qui ont été annulés et qui devaient être annoncés et qui ont été annulés à cette époque-là. Donc j'ai une assez bonne idée de la culture Riot. Et effectivement, le côté dire choquant, c'est qu'ils sont partis d'une culture ultra secrète, on parle pas des jeux tant qu'ils sont pas prêts, pour les 10 ans, célébrons feu d'artifice et on vous montre entre guillemets tout ce qu'on a sous le capot. Même si moi je pense qu'il y a encore au moins un ou deux projets qui sont peut-être pas encore annoncés. Ils en ont montré beaucoup plus que ceux dont ils ont l'habitude, et des projets surtout qui n'ont pas un état d'avancement qu'on attendrait de voir de la part de Riot. Donc c'est, moi je trouve ça plutôt frais, plutôt positif. Pour plein de raisons, parce que je pense qu'ils ont besoin aussi, eux, en tant que boîte, de s'affranchir du côté mono-jeu. Et ça, il n'y a pas de secret, hein, il faut se lancer. C'est très difficile pour une culture d'entreprise de passer de on a un seul jeu qui fait tout à on a plusieurs jeux qu'il faut gérer de manière, tout aussi soigneuse que le premier bébé, quoi. Donc, c'est un gros chamboulement. Une des choses que nous on fait, enfin moi en particulier, c'est que j'analyse les couvertures médias des jeux. Il faut voir que Riot et League of Legends n'ont jamais eu autant de couvertures médias que donc cette semaine où ils ont annoncé tous les jeux. Mais surtout, ils ont eu une couverture médiatique qui était en termes de couverture d'articles écrits en ligne par jour, au même niveau que Fortnite saison 2, dont on parlera tout à l'heure. Qui est un phénomène médiatique énorme. Fortnite, d'un point de vue couverture média, c'est ridicule, la couverture qu'ils peuvent avoir de manière systématique.
Oui, et surtout avec la saison 2 qui a fait, on en parlera, ouais. Mais qui a fait tellement de bruit avec des choses tellement osées que c'est
avec
impressionnant.
Avec son teaser. Voilà, donc que Riot s'en sorte. Alors, c'est sur une seule journée, mais pour Riot, c'est la preuve que l'approche qu'ils ont eue marche. Et que, ouais. Que pas mal de monde a joué le jeu pour couvrir leurs différentes annonces. Et puis ils ont accompagné ça de plein d'autres choses autour. Ils ont accompagné ça d'annonces de gros changements dans League of Legends. Ils ont accompagné ça d'un documentaire sur Netflix.
Regarder, pas mal foutu, c'est League of Legends Origins.
Ouais, moi, j'ai pas encore regardé de mon côté, mais ils ont bien. Ils n'ont pas fait juste on annonce des jeux, ils ont fait des documentaires sur les équipes, sur comment ils bossaient, sur ce qu'ils allaient faire sur le jeu principal. Donc c'était assez. On sent qu'il y avait beaucoup de travail qui a été mis dans cette série d'annonces et c'est pas improvisé clairement.
Ouais, c'est impressionnant et j'ai l'impression que ce qui relie toutes ces annonces et toute cette activité, c'est que même s'ils veulent évidemment avoir autant de joueurs que possible, ce qui les motive toujours, c'est le fait d'atteindre les joueurs hardcore qui font le cœur de League of Legends sans compromis. Il y a vraiment une volonté de faire des jeux qui ont un gros potentiel e-sport. Et alors, c'est que des impressions parce qu'on n'a pas encore vu les jeux eux-mêmes, mais même dans le jeu de cartes Legends of Runeterra, qui est quand même relativement grand public ou qui a le potentiel parce qu'on est dans une réflexion plutôt que de l'action rapide, le potentiel de toucher plus de monde qu'un jeu comme qu'un jeu d'action, eh ben on a l'impression qu'ils vont quand même titiller les joueurs très hardcore, pas autant que d'autres titres, c'est le cas d'ailleurs sur League of Legends, ils sont pas, peut-être pas aussi pointilleux que Dota 2, d'après ce que je comprends, hein. Moi je connais pas beaucoup ces jeux-là, mais c'est ce que disent les experts, je crois. Donc ils vont à mi-chemin entre le très grand public et le hardcore, mais sans compromis. Ils font vraiment les trucs qu'ils ont envie de faire, et on a l'impression que c'est ce qui se passe dans tous ces projets-là.
Alors, ouais, ils ont vraiment... c'est marrant, hein, effectivement, si on fait un spectre, on pourrait presque faire d'un côté, il y a un extrême, il y a Blizzard, qui allait très loin dans l'accessible et le grand public, surtout si on regarde le MOBA, par exemple, ce qu'ils ont fait avec leur MOBA dont je vous dis...
Heroes of the Storm,
merci Patrick. Donc Heroes of the Storm, et à l'autre extrême, on a Valve avec Dota 2. Ils sont effectivement trouvé un truc qui est plus pointu, plus technique, hein, à plein de niveaux que Heroes of the Storm, sans aller dans le incroyablement complexe et punitif de Dota 2. Mmh. Et quand on regarde ce qu'ils ont fait sur Legend of Runeterra, donc leur jeu de cartes, moi j'ai un de mes collègues qui a joué, on l'a regardé un peu au bureau. Alors déjà, en termes de qualité de production, c'est quelque chose de fantastique, hein. Ils sont, pour une bêta, ils sont déjà très 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 loin en termes de qualité, même dans les détails, les effets visuels, les actions et tout. Et ils ont réussi à trouver un bon compromis entre Hearthstone qui... Donc moi, je suis un joueur historique de Magic the Gathering. Donc Hearthstone, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à rentrer dedans parce que c'était très simple. Ils ont réussi à rajouter une couche, on va dire, de complexité où on peut réagir aux actions d'adversaires pendant leur tour sans nécessairement aller dans la vraie très grande complexité qu'à Magic, même si, pour le coup, moi, je suis toujours très, très joueur de Magic. Hein. Donc je pense qu'ils ont... Ils surfent cette vague, ou même en fait, on peut même parler d'artefacts, hein, le jeu de Valve en
carte qui s'est planté de manière assez dramatique. Ouais.
Qui est d'une lourdeur énorme. Alors le jeu est très bien, mais il est lourd. Une partie, ça prend entre 40 et 60 minutes. Enfin, mes parties que j'ai jouées. Hein. Et c'est vraiment complexe sans nécessairement avoir de justification. Donc ils ont l'air d'avoir trouvé leur bon ton. Et c'est marrant parce que j'ai la même impression sur leur first-person shooter. Donc, j'ai joué à Overwatch pendant la bêta. Et quand j'ai joué à la bêta Overwatch, j'ai vraiment, en tant que joueur, hein, ce n'est pas une analyse d'analyste, hein, c'est vraiment moi, Thomas, ce que j'aime dans les jeux de shoot. J'ai trouvé qu'à l'inverse, Overwatch, il y avait trop de choses qui se passaient à l'écran, c'était trop compliqué. Et ça m'a fait reprendre Counter-Strike. Donc, je joue à Counter-Strike depuis la sortie d'Overwatch parce que ça m'a fait titiller. C'était c'est longtemps que j'ai fait un bon jeu multijoueur et j'ai réinstallé Counter-Strike et j'ai repris depuis. Et donc, du coup, leur message de. Et c'est vrai que ce qui montre a un côté un petit peu plus ce qu'on appelle le gunplay, la façon dont les armes se comportent et le retour et tout. On a l'air un peu plus proche de ce qui se passerait dans un Counter-Strike. Moi, je suis bien intrigué de voir s'ils vont arriver à me convaincre, moi, personnellement, parce qu'effectivement.
T'es plus côté réaliste. Armes sont plus réalistes. On a des headshots qui tuent en un ou deux coups. Voilà. Mais il y a aussi les classes de personnages ou les héros qui ont des capacités spéciales magiques presque. C'est effectivement là aussi un bon compromis. Et le parallèle avec Blizzard est impossible à ne pas faire parce qu'on a l'impression qu'ils ont pris tous les jeux que fait Blizzard et où ils y arrivent. Bon, ils sont aussi focalisés sur l'e-sport dans une certaine mesure. Donc, c'est pas si surprenant. Mais tous les jeux, ils se disent, on va en faire un. Et avec leur sauce un petit peu plus hardcore, là où Blizzard essaye effectivement d'atteindre plus de monde. Moi, perso, c'est des jeux qui me parlent plus du côté de Blizzard, mais qui sait, surtout avec le jeu de combat. Moi, je suis un grand fan de jeux de combat, comme je le dis depuis longtemps. Ça serait peut-être quelque chose qui m'intéresserait venant de chez Riot. Lola, je me retourne maintenant vers toi. J'ai comme ça, à froid, l'impression que c'est pas trop ton truc, ce genre de jeu. Mais je sais pas, je me trompe peut-être. Toi, tu t'en as perçu quoi de cette avalanche d'annonces ?
Eh ben moi, j'ai trouvé que cette annonce était justement très intéressante pour les gens comme moi, qui en ont un peu rien à faire de League of Legends sur une base régulière dans la vie. Parce que je trouve qu'ils ont réussi à trouver justement le juste milieu entre on va continuer à faire plaisir à nos fans hardcore et on va essayer de ratisser méga large. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont rempli un seau de fléchettes et qu'ils l'ont balancé sur une cible et ils se sont dit, il y a forcément des trucs, ça va tomber juste. Et je sais que, par exemple, moi qui suis pas forcément intéressée par ce genre de jeu, bah, j'aime bien le jeu de combat. Donc, je me dis, ah bah peut-être ça va être l'occasion de découvrir un petit peu plus leur univers et ce qu'ils sont capables de proposer. Pareil, la série animée, moi, c'est quelque chose qui m'attire parce que je trouve qu'ils ont d'excellents artistes 3D qui sont capables de faire des trucs qui sont super beaux et pareil qui ont un univers je trouve qui donne envie de s'y intéresser. Et moi en fait le seul frein qui m'empêchait d'y aller bah, c'était que League of Legends c'est pas ma came. Puis bon je pense que le MOBA, enfin moi je le vois d'un point de vue joueuse lambda et pas e-sport et tout, moi je trouve que c'est un genre qui est plus trop, enfin qui a connu un âge d'or mais qui commence à s'essouffler, donc je trouve qu'ils ont vraiment bien fait de s'étaler comme ça. Et ce que je trouve vraiment intéressant ouais, c'est qu'ils ont quand même gardé le côté les hardcore, vous inquiétez pas, ça va continuer à vous intéresser, en faisant bah, des jeux de niche, des jeux de combat, des jeux de cartes et des trucs assez compétitifs, et en même temps ils apportent du support mobile et des catégories de jeux plus larges et du contenu même en dehors du jeu vidéo pour construire une espèce d'énorme communauté autour de Riot. Donc je trouve qu'en fait c'est quelque chose de très bien joué. En plus, bah, on en a parlé tout à l'heure, mais d'un point de vue communication, bombardé d'annonces comme ça, bah, ça a super bien marché. Enfin, tout le monde en a parlé partout toute la semaine, quoi. Donc, moi, en tant que non-joueuse de League of Legends et de, voilà, de Riot, je ne m'y intéressais pas en général, bah, là, je commence à avoir un intérêt. Je me dis, bah, je vais peut-être trouver ma niche. Parmi leurs jeunes niches, ça sera peut-être le jeu de combat ou le jeu de cartes, quoi.
C'est hyper intéressant ce que tu dis, effectivement, parce que on peut avoir l'impression, si on connaît un petit peu Riot, que bon, ils font un petit peu la même chose sur d'autres trucs, mais ouais, t'as raison, ils s'étendent tellement, c'est qu'ils gardent leur ADN de jeu quand même relativement hardcore, comme on en parlait avec Thomas, mais ils s'appliquent à tous les genres possibles dans ce domaine.
C'est ça.
Donc forcément, ils ratissent tellement large qu'il y a forcément des gens qui vont... Moi, pareil, je suis comme toi, League of Legends, c'est pas du tout ma cam, j'ai joué à Heroes, qui est plus simple, et ça va être... c'était beaucoup plus mon genre de jeu. Mais parmi tous ces trucs, bon bah Overwatch, j'y joue quasiment tous les jours encore, donc peut-être que j'essaierai leur jeu de tactical shooter là. Mais en jeu de combat, ça va beaucoup m'intéresser parce qu'ils risquent d'avoir une approche un petit peu différente des acteurs historiques du genre qui m'intéressent toujours autant. Mais on voit ce qu'ils ont fait avec le MOBA et où ils l'ont amené. Je me dis peut-être que ça va être un moyen de développer le jeu de combat à un niveau qui sera tellement, enfin, aussi important. Et moi, tout de suite, ça me parle. Ça me fait, ça me caresse dans le sens du poil, on va dire, le jeu de combat. Ouais. Donc, ouais.
Bah en fait, j'ai l'impression qu'ils collectionnent les niches pour avoir une grosse audience en cumulant juste les jeux un peu à part qui, d'habitude, fédèrent pas forcément une énorme communauté. Enfin, peut-être que je dis des bêtises, mais par exemple, j'adore le jeu de combat, mais c'est pas le genre de jeu le plus répandu et populaire parmi les joueurs lambda. C'est pas forcément
quelque chose... Ah bah le jeu de combat,
chose,
effectivement, voilà. Ça a connu un âge d'or il y a un bon moment. Et
c'est
puis, aujourd'hui, même si c'est un e-sport compétitif, et moi je parle de l'Evo tout le temps, il y a un e-sport, il y a une communauté, mais qui est minime par rapport à ce qu'on connaît du côté des jeux des FPS, des jeux de cartes, des MOBA, voilà. Ça existe, certainement, mais c'est beaucoup plus petit. Et peut-être que Riot, avec son expertise, réussira à faire quelque chose de plus grand. Sachant que le jeu de combat, on en a vu vraiment une seconde et demie d'images et c'est tout. Les autres, on avait genre une minute et encore et c'est tout, à part le jeu de cartes. Donc, ça ne va pas arriver tout de suite. Hein. C'est vraiment sur les années à venir, je pense, qu'ils vont établir les choses. Mais ce n'est pas pour tout de suite du tout. Mais ça reste quand même très intéressant. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de Riot. Je crois qu'on n'a rien oublié, ouais. Mais... Oui, puisque ça nous a amené à parler de Blizzard, pour faire la transition, je vais quand même mentionner le fait que... Alors d'abord, je rappelle à tous ceux qui ne le sauraient pas, je pense que quand même l'essentiel des auditeurs le savent, j'ai travaillé pour Blizzard pendant 5 ans en Europe et c'était un boulot que j'ai adoré. Je ne travaille plus chez eux depuis 5 ans, mais gardez-le à l'esprit pour éclairer mes commentaires d'une lumière éthique et authentique. Mais il est intéressant de voir que, alors que Blizzard a été complètement embourbé dans ses histoire de comment dire, dans ses problèmes avec la Chine et la liberté de parole, eh bien Riot, qui a eu énormément de publicité, sont eux non seulement 100% détenus par Tencent, société chinoise, Tencent qui détient aussi 5% de Activision Blizzard, mais qu'ils ont également dit publiquement, on ne veut pas qu'il y ait de politique du tout dans nos compétitions, mais du tout. Et bon, personne ne le mentionne. Alors, c'est un petit truc que je dis comme ça. Évidemment, Blizzard, la différence, c'est qu'ils ont eu, ils ont effectivement acté sur la chose. On va parler de la mise à jour. À l'épisode précédent, on a passé 50 minutes à parler de cette histoire de Blizzard. Donc vraiment, ce n'est pas un sujet qu'on veut éluder, mais on va parler que de la partie nouvelle qu'il y a eu. Je ne veux pas t'interrompre, Thomas. Tu voulais préciser quelque chose, peut-être ?
Non, j'ai un...
Moi, je ne suis pas comme Blizzard. Je n'empêche pas les gens de s'exprimer. Vas-y, Thomas.
Non, moi, j'ai un... Par rapport à la... Tencent, c'est une société qui a un énormément de présence dans le jeu vidéo. C'est complètement accepté par tout le monde. Il y a une tendance sur les internets, comme on les appelle, de tout de suite partir en mode toutes les boîtes qui sont contrôlées par Tencent sont contrôlées par le gouvernement chinois. Et donc, tout ce que, par intermédiaire et effet de domino, elles sont toutes poussées à la
censure.
À la censure, voilà. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Mais Activision, ils sont contrôlés par Tencent parce qu'ils ont 5%. » Ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, je trouve être incroyablement nocif en termes de réflexion. C'est que, oui, Tencent a des parts dans toutes ces boîtes-là, mais dans mes expériences, toutes ces boîtes-là choisissent leur propre rôle, y compris Riot, qui est contrôlé à 100% peut-être par Tencent, a quand même eu des positions différentes de celles de Blizzard sur le sujet de la liberté de parole et des joueurs de Hong Kong, enfin des joueurs qui viennent d'Hong Kong ou la situation qui a lieu entre Hong Kong et la Chine. Et ils ont été, même s'ils ont dit on ne veut pas de discours politique, ils ont des contrats avec leurs joueurs professionnels et c'est quelque chose qui s'applique à tous les niveaux. Ils ne veulent pas non plus qu'il y ait un joueur américain qui se mette sur un stream qui dise MAGA, Trump c'est le meilleur, etc. Donc ils sont relativement cohérent là-dessus. Et je pense que Tencent, de toutes les parties impliquées dans cette histoire-là, il ne faut pas oublier que Tencent est une boîte chinoise, mais par des fonds qui eux-mêmes ne sont pas forcément chinois. Il y a beaucoup d'argent australien et sud-africain au sein de Tencent. Et Tencent sont les premiers emmerdés par les décisions que prennent le gouvernement chinois. Quand la censure des jeux vidéo a pris un plus d'ampleur il y a 2 ans, les jeux qui nécessitent une autorisation du gouvernement chinois pour pouvoir être sortir sur le territoire, les jeux de Tencent étaient tout aussi censurés. Voire, de l'extérieur, il semble qu'il y ait des tensions entre le gouvernement chinois et Tencent. PlayerUnknown's Battlegrounds, qui est donc publié par Tencent en Chine, s'est retrouvé bloqué à plein de niveaux avant de pouvoir sortir et être commercialisé. Et je pense qu'il faut ne pas être naïf et ne pas dire toutes les boîtes chinoises sont le gouvernement chinois et ne pas oublier que Ubisoft est aussi en partie Tencent appartient à départ aussi dans Ubisoft, dans Paradox, dans tout un tas de studios indépendants autour du monde et c'est pas pour autant que tout le monde s'est mis à occulter la situation avec Hong Kong. Je pense que pour revenir sur Blizzard, ils se sont un peu mis dans la merde tout seuls, comme des grands, sans que Tencent les aide à ce niveau-là.
Oui, là où je suis tout à fait d'accord, c'est que je ne suis pas convaincu que Tencent influence, à vrai dire Blizzard 5%, c'est pas... Et disons que pour se laisser influencer par le gouvernement chinois, aucune boîte n'a besoin de Tencent, parce que le marché chinois est tellement important. Exactement. Que s'il y a une influence à avoir, bah, elle va passer par là. Sur ce point,
exactement,
je pense qu'on est d'accord. Ceci dit, voilà. Si une boîte à 100%, enfin, possède une autre, on ne peut pas non plus nier le fait que ça peut avoir une influence. Là, je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point. Maintenant, pour faire la mise à jour par rapport à ce qu'on disait il y a deux semaines dans l'épisode précédent, Blizzard a modifié sa décision. Donc, à l'origine, le joueur Blitzchung, qui avait exprimé son soutien aux manifestants de Hong Kong lors d'une interview post-match dans le tournoi des Grandmasters, à la fin du tournoi qu'il avait gagné, ils sont passés de 6 mois de suspension au lieu d'un an et ils lui ont réattribué l'argent qu'il avait gagné pendant le tournoi alors qu'il avait été confisqué. Le texte qui a été publié par Blizzard a pour moi été assez maladroit parce qu'ils ont mis en avant une sorte de discours assez corporate. Je ne sais pas si les auditeurs l'ont lu, mais si vous l'avez lu, c'était vraiment quelque chose de froid et de robotique. Et encore pire que ça, d'artificiel. C'est-à-dire qu'ils mettaient en avant les différentes valeurs de la société en essayant d'expliquer en quoi ça s'appliquait à cette situation. Et tout ça semblait vraiment distant, alors que ce dont on avait besoin en tant que fan de jeux vidéo et fan de Blizzard, c'était plutôt l'authenticité, de la sincérité. Et on n'en a vraiment pas eu du tout. Et la phrase qui fait le plus mal à lire, pour moi en tout cas, c'est le fait qu'il dit noir sur blanc, notre décision n'a rien à voir avec la Chine, n'a pas été influencée par la Chine. Alors attendez, je ne vais pas dire n'a pas été influencée par la Chine parce que ce n'est pas ce qu'il dit exactement. Je vais retrouver le quote. Donc ce qu'il dit, c'est « I want to be clear, our relationship in China had no influence on our decision. » Je veux être clair, notre relation avec la Chine n'a pas eu d'influence sur cette décision. Alors, s'il parle de la relation avec le gouvernement chinois, peut-être que c'est ce qu'il voulait dire, comme on l'évoquait avec Thomas. On se doute qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a effectivement, comme on l'a peut-être caricaturé, décroché le téléphone pour dire « vous devez bannir ce joueur ». Mais dire que la présence en Chine n'a eu aucune influence sur la décision, elle a été prise de manière tellement violente qu'il est évident que qui que ce soit qui ait pris cette décision, que ce soit le président Jay Allenbrack ou une équipe asiatique ou chinoise sur place qui a paniqué, évidemment que c'était la relation avec la Chine qui a provoqué cette hâte dans la décision. Donc le fait qu'ils disent ça n'a eu aucune influence, soit il faut qu'il explique plus, parce que juste comme ça, ça ne colle pas avec la réalité qu'on a vue, soit il faut qu'il le dise différemment. Donc pour moi, le message était vraiment assez maladroit. Maintenant, la décision en elle-même, là où on y arrive au final, pas de punition financière, donc il peut garder tout ce qu'il a gagné et seulement, entre guillemets, 6 mois de suspension. S'ils avaient pris cette décision dès le départ, je pense que ça aurait été beaucoup moins problématique. Mais aujourd'hui, je comprends que le public soit encore un petit peu frustré par cette histoire. Moi aussi, ce que je me dis, c'est que 6 mois, ça veut dire qu'au prochain... Grand Masters, Blitzchung va pouvoir participer s'il le souhaite. Il n'a pas dit s'il allait le faire, mais il va pouvoir participer. Et si je regarde vers l'avenir, d'une part, 6 mois est la plus grande punition qu'il puisse faire, parce que là, c'était clairement un truc hyper politique et ils ont donné, entre guillemets, que 6 mois. Donc, c'est le plus qu'il puisse faire. Pour éviter que leur tournoi se transforme en cirque politique, comme tu le disais, Thomas, avec des gens qui disent « moi, j'aime Trump, moi, j'aime machin, moi, j'aime Macron, moi, j'aime Mélenchon ». Bon, on peut comprendre, même si certains le discutent, certains disaient « bah oui, mais concrètement, c'est très, très rare, ce genre de choses ». Donc, bon, OK, moi, je peux comprendre le fait qu'il faut qu'il y ait une punition, qu'elle soit 3 mois ou 6 mois, on peut discuter après, mais je peux comprendre. Mais surtout, si je regarde à l'avenir, je me dis… Dans 6 mois, on va revoir Blitzchung, j'espère, Blitzchung dans les tournois, et il sera possible pour lui de participer, et on va reparler du coup de sa sortie, on va reparler, ça redonne de la visibilité d'une certaine manière à cette histoire, donc ça me semble être une punition plus ou moins raisonnable. Même si, je suis d'accord avec la plupart des commentateurs, là, on a la BlizzCon qui arrive dans une semaine, il va falloir qu'il fasse plus pour satisfaire les gens parce que la frustration reste. Lola, toi, est-ce que t'as suivi l'affaire ? Qu'est-ce que tu penses de là où on en est ?
Dis-nous tout. Moi, je pense que le mal est fait, en fait. Cette espèce de réduction de peine, je la trouve ridicule. Et même juste ça, moi, je trouve que ça ne devrait pas avoir lieu d'être. Moi, ce qui m'embête, c'est vraiment l'hypocrisie. Ils auraient pu juste dire dans leur message, on aime vraiment l'argent. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas se fâcher avec notre public qui rapporte le plus d'argent. Et là, on aurait fait OK, parce que comment on peut s'étonner qu'une corporation dont le but est vraiment de faire du profit ait des comportements peu éthiques pour gagner de l'argent ? Enfin, moi, je ne suis pas étonnée, enfin, pas choquée, mais déçue, comme on dit sur Internet.
Oui, mais après, tu dis moi, ça, Lola, tu dis ça, on comprend que tu plaisantes, qu'ils ne vont jamais le dire comme ça.
Oui,
donc,
mais
ce n'est pas vraiment une solution non plus. À moins que
bien sûr.
Ouais, c'est ça qui est
en fait, moi, ce qui m'embête, c'est l'hypocrisie de cette punition qui va quand même, je trouve, souvent dans un sens politique plus que dans l'autre. Ce que je veux dire, si vraiment la politique, c'était ça le vrai problème, et le vrai problème, c'était de répandre ses opinions ou ses penchants pour des partis, on verrait beaucoup plus, je pense, de joueurs très toxiques à travers le monde se prendre des taquets. Et c'est pas vraiment le cas. J'ai vraiment l'impression que c'est à partir du moment où ça fâche ceux qui tiennent le porte-monnaie que ça dérive. Donc,
bah écoute, moi pour avoir suivi l'évolution de Blizzard et notamment sur l'Overwatch League, je dois, pour être parfaitement honnête, je dois dire qu'ils ont banni plusieurs joueurs qui avaient exprimé des opinions sexistes ou homophobes ou ce genre de choses, et ils les ont bannis, et ça a d'ailleurs provoqué des controverses également. Ils les ont bannis pour quelques semaines, quelques mois, même finalement un petit peu plus. Donc, je ne serais pas tout
ouais,
à fait d'accord avec le fait que
peut-être du retour qui est énorme, en fait, finalement, ouais.
Oui.
Après, puis peut-être que c'est différent dans le cas de Blizzard. C'est vrai que moi, je ne suis pas la plus calée sur Blizzard. C'est vrai que je faisais plus un constat global sur les différents
Là où j'irais dans ton sens, c'est que Blizzard, de fait une certaine forme de politique parce qu'ils ont soutenu les mouvements d'inclusion. Très clairement, pas seulement dans leurs jeux comme Overwatch, dont je parlais la dernière fois, mais ils ont aussi une activité assez forte sur l'inclusion, sur les mouvements LGBT. Ils ont à la BlizzCon régulièrement des stands spécifiques sur ça. Alors,
mais du coup, ça remet en perspective, je trouve, toutes ces belles choses.
Exactement.
Ça fait du genre, bah en fait, peut-être qu'on l'a fait parce qu'en ce moment, ça marche plutôt bien pour se faire aimer de la communauté et pour surfer un peu sur une espèce de féminisme washing, LGBT washing. Enfin, ouais. Je suis très contente que tous ces personnages existent parce qu'on en a besoin, mais on sait que les intentions derrière, c'est les mêmes que pour le bannissement de ce joueur. Bah, ça reste simplement les finances, quoi. Donc,
Alors vraiment, ils peuvent gagner nulle part et c'est la situation
c'est ça.
Mais vraiment, sur ce point, je ferai du pushback envers ça. J'ai vraiment pas l'impression que ça soit dans le cas du féminisme, inclusion. Ils ont des personnages homo. Ils ont une égalité exemplaire sur Overwatch spécifiquement. Ils ont fait, enfin, je veux dire, c'est vraiment l'action qui montre ce qu'ils sont en train de faire. Et sur ce point, ils sont très sincères. D'ailleurs, cas aussi chez leurs employés. En tout cas, c'est l'impression que j'ai vue de l'extérieur maintenant, ils mettent ça beaucoup en avant. Alors, est-ce que c'est du washing ? On pourrait en débattre. Je vais venir à toi dans une seconde,
sûrement
Thomas.
Sûrement un petit mix des deux, je pense.
Peut-être. Mais là où ça, c'est ironique, c'est que du coup, ça veut dire qu'eux, ils font de fait de la politique. La politique, il est difficile de critiquer quand on est un petit peu, cohérent avec le sens de la société. Mais
j'irais quand même dire que la présence et la visibilité de personnes LGBT ou de minorités en général ne devraient pas être politiques. Et en fait,
exactement.
C'est ça. Le fait qu'on dise que c'est politique, c'est embêtant. Oui, bien sûr.
Mais c'est ce que
vont
dire les gens, parce qu'on pourra dire, et on aura tout à fait raison, les droits de l'homme, ça devrait pas être politique. Le fait que, tu vois, et on peut
avoir le droit d'exister ne devrait pas être politique de base.
Exactement.
Tout à fait.
Et en Chine, ils sont en train de se battre pour leurs droits fondamentaux. Et donc, alors évidemment, c'est un petit peu peut-être naïf de dire oui, mais il faudrait juste faire machin. Je ne sais pas. Mais encore une fois, l'influence de la Chine devient. Donc, il n'y a pas vraiment de solution.
Non, clairement.
Thomas, moi, tu voulais ajouter quelque chose ?
Je suis globalement d'accord avec ce que vous dites tous les deux. Hein, c'est surtout le côté. Donc, je suis membre de Women in Game France. Pour les gens qui ne savent pas, je suis C'est des sujets qui sont importants. Il ne faut pas que le... Ce ne pas des sujets qui devraient être portés à la politique. Maintenant, il se trouve que dans des pays, ce sont des sujets politiques. Alors peut-être moins en Europe occidentale, mais en Russie, par exemple, il me semble qu'effectivement, Blizzard a moins mis en avant le côté que Tracer est un personnage est gay, par exemple.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Choses comme ça qui ont été un peu effacées pour correspondre aussi à la légalité de ces pays, hein, qui n'autorise pas les gens différents à exister d'un point de vue légal. Moi, ce que je vois, c'est que toutes ces décisions de Blizzard, de beaucoup de boîtes, souvent occidentales, hein, de pousser la diversité, d'avoir la parité dans les genres, d'avoir des personnages de minorités, de toutes types de minorités, je me demande si c'est aussi pas un reflet au niveau de Blizzard de la différence entre les équipes créatives qui prennent ces décisions-là.
Oui.
Et des équipes business et les changements qu'il y a eu aussi au sein de Blizzard, les faits qu'il y a eu une partie des équipes ont été virées, que c'était la première fois qu'il y a eu autant de licenciements au sein de Blizzard, que des fondateurs originaux sont partis maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une plus grosse prise en main de Bobby Kotick et de Activision sur certains aspects de la vie de Blizzard? Peut-être que c'est ça qu'on voit dans cette... Si moi, je pense que, comme Patrick, ce n'est pas du feminism washing ou du LGBT washing de ce qu'ils ont fait au niveau créatif, c'est les vraies aspirations créatives des game designers et des créateurs. C'est peut-être un reflet d'une autre influence qui devient plus proéminente au sein de Blizzard, qui est du côté business et qui ressemble plus peut-être à Activision, peut-être.
C'est possible que l'influence d'Activision soit en train de grandir. Vraiment, sur l'aspect féminisme, inclusion, je crois qu'il y a quelque chose de très authentique au sein de Blizzard et qui est beaucoup plus fort que dans de nombreuses autres sociétés ces dernières années. Donc, il me paraît malvenu de mettre le doute là-dessus, même si on peut poser la question. Je veux dire, on peut poser la question sur tout. Genre, Thomas Bideau a-t-il assassiné des enfants pendant sa jeunesse? Oui, on peut poser la question, tu vois. Mais sur ce point, je crois que la sincérité de Blizzard me paraît difficile à remettre en cause, ce qui est d'autant plus frustrant dans cette histoire aujourd'hui, parce qu'on avait une société qui était l'une des rares à se lever et à agir sur ces points, qui, là, pour le coup, oui, privilégie son... Même si, bon, peut-être que le risque n'était pas si énorme. Oui, on pouvait s'aliéner une partie de la population en disant « Soldier 76 est gay ». C'est vrai, mais peut-être que c'est pas aussi risqué que d'aliéner la Chine.
Ouais, en fait, je pense que c'est ça le truc, c'est que je pense que ce que j'ai pas pris en compte dans mon équation entre guillemets, c'est effectivement la partie créa et la partie business de la même boîte en fait finalement. Et ils peuvent avoir eux-mêmes deux avis assez différents, mais sur certains points réussir à se recouper. Et c'est peut-être là en fait le cœur du problème, c'est que les équipes créatives, je pense que pour la plupart, elles soutiennent pas du tout ce qui s'est passé récemment.
Je suis hyper, hyper méfiant de cette idée que... non, au contraire, je vais te contredire. Cette idée que les créatifs, c'est tous des gentils et les business, c'est tous des méchants.
Je dis pas ça, mais c'est un peu ce que vous dites quand même tous les deux. C'est possible qu'il y ait un schisme. Enfin, je sais que moi, je l'ai vécu dans un studio où je voulais pousser des trucs beaucoup plus bienveillants alors que je faisais partie des créas. Et c'est au-dessus qu'on m'a un petit peu mis des stops. Après, je dis pas que c'est partout pareil. Effectivement, en plus, il y a énormément de monde... chaque personne aura son point de vue dans le truc, mais je dis juste que effectivement, là, en tout cas, avec ce qui s'est passé en Chine, c'est quand même la partie qui tient les sous, je pense, qui a fait la manœuvre. Ça vient pas de l'équipe créative. Donc,
écoutez, sur ce qui est intéressant chez Blizzard, qui est peut-être en train de changer, mais moi, mon expérience, c'est que ce sont les développeurs qui ont la main sur tout. Mais tout, y compris une énorme partie du business. Donc, dans le cas de Blizzard, en tout cas, dire les créatifs et le business, c'est vraiment plus compliqué que ça. Parce que chez Blizzard, ils décident au niveau des devs, et c'est parce que c'est comme ça que la boîte a été faite. Et en tout cas, c'était le cas jusqu'à ce que je sois parti. Peut-être que les choses ont changé aujourd'hui, mais je ne pense pas. Les devs ont le choix sur tout. Donc, s'il y a des bonnes décisions, c'est les devs qui les ont prises. S'il y a des mauvaises décisions, pour moi, c'est des devs qui les ont prises aussi.
Ouais, mais d'un point de vue relationnel et marketing et tout ça.
Ah, mais ils décident tout. Moi, je l'ai vu de l'intérieur et je peux vous l'assurer. Quand on voulait faire quelque chose, il fallait l'approbation des devs à tous les niveaux. Mais tous, on voulait un truc marketing, un nouveau produit dérivé, distribuer des clés bêta à telle et telle personne, tout passait par les devs. Donc, c'est peut-être particulier chez Blizzard, mais donc là,
j'ai jamais entendu parler de ça. Donc, effectivement, si c'est un fonctionnement
c'est particulier
à part,
comme date.
Je connais pas assez pour pouvoir continuer là-dessus, mais
c'est clairement ce que j'ai, c'est les échos que j'ai aussi de gens que je connais qui sont chez Blizzard. La Paris Invitational, apparemment, était compliqué à organiser parce que tout était validé jusqu'au matériaux utilisés pour les lanyards pour les invités. Tu devais être là-bas à l'époque, Patrick, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Je te confirme, tout est compliqué.
Voilà.
Mais tout est compliqué parce que, justement, dans un sens, je ne voulais pas qu'on fasse trop longtemps chez Blizzard, on est en train de s'allonger, mais dans un sens qu'on voudrait, c'est-à-dire que c'est les devs qui décident tout et c'est justement pour protéger l'intégrité de création des devs. Maintenant, cette histoire de la Chine, effectivement, je pense qu'on est un petit peu loin de cette idée-là. Mais en même temps, je prends le contre-pied de ce que vous dites parce que j'aime toujours avoir deux ou trois ou quatre opinions différentes, mais ça me paraît vraiment compliqué de prendre une décision radicale sur la Chine parce que, comme tu le disais, il y a des problèmes en Russie, il y a des problèmes en Arabie Saoudite, il y a des problèmes en Turquie, il y a des problèmes partout. Je ne sais pas si c'est le rôle de Blizzard de décider quel pays est acceptable ou pas. Alors, maintenant, on pourrait dire ils ne sont peut-être pas obligés d'accepter, mais quand quelqu'un s'exprime sur le sujet, ils ne sont pas obligés de mettre le banhammer à fond sur la tête pour le faire taire. Peut-être pas, et c'est en ça que je reviens à 3 à 6 mois, c'est peut-être raisonnable. Enfin bon, je ne sais pas. Vas-y, finis Tom, et puis on va avancer parce que...
Juste pour finir, par rapport à ma réflexion sur le côté business, ma réflexion vient aussi du fait que la décision a été prise trop vite et qu'elle était très extrême. Elle était prise dans le cadre de la dimension e-sports du jeu. Et moins la nature même du jeu. On ne parle pas d'un personnage qui a été banni ou quoi que ce soit. On parle de... donc voilà, je me demande dans quelle mesure ça n'a pas été... ça ne s'est pas passé par un processus de décision qui est effectivement peut-être une plus petite équipe, plus autonome au sein de Blizzard qui a peut-être parlé trop vite. Tu vois. Et juste pour finir là-dessus, deux choses. Une, moi je trouve que le ban du joueur, je peux le comprendre, la nouvelle version peut être acceptée. Le ban des deux mecs qui faisaient l'interview, je trouve ça scandaleux toujours.
Ah bah ils l'ont retiré aussi. Ils sont plus bannis du coup. Enfin, ils ont 6 mois.
Ils sont plus bannis. Ah, moi, je trouve que 6 mois, c'est trop pour eux.
Est-ce que tu as vu le truc ou pas la vidéo. Tu l'as vu? Tu as vu qu'ils étaient en train de se marrer, qu'ils ont encouragé le type à dire le truc et puis qu'ils se sont planqués en rigolant. Ils étaient quand même. Ils ont fait partie de l'action quand même.
Ouais, mais je trouve que quand les règles sont pas claires, c'est difficile de punir les gens de cette façon-là.
Moi, je pense que
eux, c'est leur moyen de vivre en fait, de manière. Ah bon.
Ah oui, mais si tu veux, ils étaient complices entre guillemets de l'action, c'est-à-dire qu'ils l'ont encouragé, ils ont dit ah ouais vas-y. Enfin, j'ai pas la traduction exacte, mais c'était clair qu'ils étaient dans le coup. C'est pas que ça les a surpris le truc. Donc, si tu vas le bannir lui parce qu'il a dit un truc de ce type-là, je comprends mal qu'on ne les bannirait pas eux, parce que du coup, ce n'est pas du tout égal comme décision. Ça veut dire que les casteurs, eux, peuvent dire ce qu'ils veulent sur des sujets politiques. Ça ne me paraît pas... Pour moi, soit on est contre l'ensemble, soit on accepte l'ensemble. Ça me paraît difficile d'accepter le bannissement pour le joueur et pas pour les casteurs. Mais bon. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... c'est qu'ils ont, bah, ils n'ont pas satisfait tout le monde, ils n'ont même pas satisfait grand monde avec cette explication supplémentaire. À vrai dire, même moi, j'ai, comme je le disais, pris le contre-pied de ce que vous disiez, mais dans l'ensemble, même si je vois une porte ouverte vers l'avenir quand on reverra Blitzchung dans les compétitions, je ne suis quand même pas super satisfait, justement à cause de ce dont on parlait avec le volontarisme de Blizzard dans des sujets un petit peu controversés parfois, qui fait que là, aujourd'hui, sur ce point, ça me déçoit. Donc, j'espère qu'à la BlizzCon, ils vont faire quelque chose. Quoi ? Je ne sais pas. Mais quelque chose, peut-être, j'en sais rien. Aider les manifestants qui ne manqueront pas de venir, en parler un tout petit peu de manière oblique, j'en sais rien. Mais je pense qu'ils, non seulement, j'espère qu'ils vont faire quelque chose, mais il faut qu'ils fassent quelque chose. Parce que, comme je le disais ailleurs, je crois que s'ils parlent de ce sujet et qu'ils réussissent à formuler quelque chose de plus ou moins cohérent, on va, toute la presse et tous les joueurs vont en parler pendant une demi-journée. Et puis après, on va parler des grosses annonces qu'ils feront certainement. S'ils n'en parlent pas du tout, s'ils essayent de faire comme si ça n'existait pas, ça va être le sujet de conversation de tout le monde pendant 2 jours. Donc même au niveau de leur intérêt, je pense qu'il serait important d'en parler. Mais bon, à voir s'ils vont réussir à goupiller le truc, quoi. Et puis, pour mentionner encore d'autres éléments, Magic the Gathering a vu un joueur s'exprimer en faveur de Hong Kong et eux n'ont pas du tout banni le joueur. Alors, je ne sais pas s'ils ont du business en Chine, mais dans tous les cas, ils n'ont pas du tout banni le joueur. Donc, c'était une manière plus positive d'aborder la chose. Et l'équipe de PlayStation en Russie, donc de Sony PlayStation en Russie, refuse de commercialiser Call of Duty Modern Warfare, donc on ne sait pas à quel point les Russes sont impliqués dans le jeu encore, parce qu'on ne l'a pas vu, mais il ne sera pas publié en Russie, il sera quand même disponible ailleurs, mais pas directement par PlayStation, il sera disponible sur Xbox. Et puis Mike Ibarra, puisqu'on parle de Xbox, est le nouveau vice-président de Blizzard. C'est un ancien de Microsoft et de Xbox, 10 ans chez Xbox, et donc il sera également à la tête de Blizzard, enfin en tant que vice-président. On peut y voir toutes les interprétations possibles, parce qu'on peut dire « Ah, bah, il était chez Microsoft depuis l'époque où c'était hyper business-business », et on peut dire aussi « Il était chez Microsoft et chez Xbox depuis qu'ils se sont plantés avec la Xbox One au lancement et qu'ils ont remonté la pente de manière, en tout cas dans le cœur des joueurs, de manière spectaculaire ces dernières années. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? J'en sais rien du tout, et Blizzard a toujours eu des gens qui venaient de l'extérieur et ils les ont adaptés à la sauce Blizzard, donc on verra. Je ne vais pas spéculer sur ce qui va être annoncé à la BlizzCon. On a eu l'emploi du temps de la BlizzCon et la carte, et là il y a plein de choses qui pourraient arriver. On a eu des rumeurs sur Diablo 4 évidemment, Overwatch 2 qui pourrait être annoncé, le remaster de Diablo 2, enfin plein de choses. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de trous dans l'emploi du temps qui laissent la place pour plein de projets annoncés. Donc il risque de se passer beaucoup de choses en plus de tout ce dont on vient de parler. Il risque de se passer plein de choses au niveau des annonces, donc à voir comment elles seront prises. Encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, j'aurai pour les patriotes du rendez-vous jeu des éditos spéciaux qui seront accessibles sur le flux privé. On en parlera avant même la fin de la conférence tous ensemble. Parlons un petit peu des jeux qui sont sortis en ce moment et des jeux auxquels vous jouez. Lola, je sais que tu t'es mise un tout petit peu en retard à Neko Hatsume et puis ouais. Untitled Goose Game dont je parlais il y a quelques semaines, et Link's Awakening aussi.
Tout à fait.
Ouais, c'est tes jeux du moment.
Ouais, c'est mes jeux du moment parce que j'avais envie de jeux un peu posé et chill, marre de toute cette violence. J'avais envie de collectionner des chats et de faire de tout petits larcins en incarnant de la volaille. mais en fait, je me rends compte que les jeux auxquels je joue le plus en ce moment, c'est assez rapide, dans le sens où récemment, il y a eu l'Indiecade aussi à Paris, et j'ai testé pas mal de jeux indépendants, et je me rends compte que c'est un peu ça, ma consommation de jeux actuelle, c'est beaucoup jouer à plein de petites expériences ludiques qui viennent de pays différents, histoire de bah, je sais pas, de recevoir toutes ces cultures qui peuvent nourrir mon game design aussi à moi et tout. Donc, en fait, je suis en recherche de jeux un peu insolites, je l'avoue, en ce moment. Et je suis très contente de la sortie avec... de Goose Game.
Ouais, Untitled Goose Game, qui est vraiment... Alors, j'en parlais un petit peu il y a quelques temps, mais vraiment un jeu atypique où on joue une oie. Et une oie qui est un petit peu, comment dire, mal polie, c'est une conne, elle fait chier
ouais,
tout le monde.
C'est ça, c'est une petite délinquante. Mais ouais, en fait, ce que je trouve vraiment rigolo, c'est que c'est une espèce de bac à sable géant, en fait, ce jeu. Finalement, le gameplay en lui-même, c'est pas ce que je trouve le plus important. Ce que je trouve intéressant avec ce jeu, c'est vraiment la notion de contexte. Et je pense que sans ce contexte, le jeu aurait pas plu. Il aurait eu un habillage différent. Il aurait eu des petites interactions contextuelles différentes. Il aurait pas eu le même succès. Et pour moi, en tant que game designer, je trouve ça vraiment chouette parce que ça montre le pouvoir de la situation dans laquelle on va mettre le joueur, qui on veut incarner, comment et dans quel univers. Au-delà du gameplay, je trouve que c'est vraiment ce qui fait la force de ce jeu. Effectivement, bon, les deux sont quand même bien mélangés, hein, mais je trouve que c'est vraiment une démonstration de game design très intéressante.
Tu veux dire que si on avait eu le même jeu exactement avec les mêmes mécaniques et qu'on avait joué un Solid Snake par exemple, ouais, au hasard, ça aurait pas
moins
du
drôle.
Tout eu le même impact, quoi. Ah oui, c'est sûr.
Clairement. Le bouton, juste qui sert à cancaner là. Ça ne sert à rien, hein, quasiment. C'est ça, là, le coin-coin magnifique. Mais vraiment, j'ai passé mon jeu à appuyer dessus. Ça ne sert qu'à nourrir le contexte. Ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Donc,
c'est vrai que c'est un masterclass de design en dehors du gameplay, en fait.
Exactement.
C'est incroyablement...
En fait, dans le game design, on a un peu trois piliers pour concevoir les jeux. C'est la théorie du MDA, donc qu'on appelle mécanique, dynamique, esthétique. Donc mécanique, ça va être toutes les choses qu'il est possible de faire dans le jeu. Les dynamiques, c'est comment on va les faire interagir entre elles pour faire des boucles de gameplay. Et la côté esthétique, c'est vraiment le délire du quel rôle j'incarne, c'est qui je suis en tant que joueur, dans quel décor, qu'est-ce que je vais être amené à faire, dans quelle fantaisie je vais être amené à me projeter. Et pour moi, Untitled Goose Game, il est vraiment là-dedans. Ouais. C'est dans cette espèce de fantasme chelou d'incarner une oie, ça te permet de faire des trucs, mais
qui aurait pensé que
vraiment relou, quoi.
Qui aurait pensé que les joueurs qui passent leur temps à incarner des militaires attirés partout et tous les jeux sont le gros badass qui va détruire tout le monde à coups de poing, en fait, un des fantasmes qui nous plaît, c'est d'être une oie qui vient emmerder les jardiniers en leur jetant leur chapeau dans le lac, quoi.
C'est une sorte de power fantasy, mais transmise sur quelque chose de beaucoup plus proche de nous, qu'on peut imaginer, quoi. Donc, je trouve que c'est vraiment la force de ce jeu.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une fantasy d'un truc qu'on voudrait pouvoir faire dans la vraie vie.
Ouais,
c'est-à-dire aller emmerder
en...
les gens, quoi. Être méchant. Être juste méchant.
Ouais, ouais. La nuisance sans conséquence, c'est ça, je pense.
Très bien dit, la nuisance sans conséquence, exactement. Thomas, toi, il y a des trucs auxquels tu joues en ce moment qui t'ont marqué ?
Je joue pas mal à Magic Arena, qui m'a fait reprendre Magic sans les contraintes du papier. Donc, c'est plus facile de trouver des joueurs, c'est plus facile de créer des decks, ça m'a beaucoup plu. Et puis, j'ai une bonne waitlist en ce moment sur pas mal de jeux. Knights and Bikes m'intéresse beaucoup. Ce jeu, on joue deux petites filles dans les années 80 dans une île paumée au large de l'Angleterre. Il y a une thématique Goonies, Stranger Things qui a l'air pas mal. Il faut que je me lance. C'est probablement mon prochain jeu quand j'aurai fini. Magic Arena me sert en fait plus de snack. J'ai 10 minutes, je vais me faire une petite partie. Donc, ça,
pareil,
c'est davantage.
Avec Overwatch pour moi, ouais, je connais bien ça. Écoute, ta liste de jeux à jouer va s'allonger, j'en suis sûr. Moi, j'ai notamment préinstallé Modern Warfare. La première fois que j'installe un Call of Duty depuis, je sais pas, peut-être Advanced Warfare, qui déjà m'avait pas beaucoup plu. Donc, ça fait un bon moment. Et là, je suis très intrigué. Donc, j'y jouerai sans doute ce soir. Pareil avec Outer Worlds, dont j'entends énormément de bien, qui sort ce soir et qui est disponible. Mais là, le truc incroyable dans le Xbox Game Pass. Donc, que du coup, j'ai installer sur PC et que je vais installer sur Xbox, je vais l'installer partout, comme ça j'aurai bien une plateforme sur laquelle je vais pouvoir y jouer. Mais le truc invraisemblable, c'est pas le plus gros jeu de l'histoire, mais c'est quand même une des grosses sorties du moment. Et ben, il est dispo sur le Xbox Game Pass, que je continue à adorer. Et puis...
Mais
oui,
le studio a été racheté par Microsoft, peut-être pour ça.
Ah oui, d'accord, tout s'explique. Effectivement, mais c'est d'autant plus, enfin c'est tout aussi cool quand même.
C'est très bien quand même.
Ouais, c'est Obsidian, c'est ça ? Oui, Obsidian, ils ont été rachetés par Microsoft, tout à fait. Mais oui, mais c'est ça qui valide encore plus la formule, quoi. Déjà que je l'aimais, le Game Pass, non, c'est super bien. Mais c'est ça, je veux dire, c'est incroyable qu'on vive dans un monde où ce type de jeu arrive sur les services d'abonnement à si bon marché, quoi. Mmh. Donc, n'oubliez pas, je crois qu'elle est encore valide. À chaque fois, j'en parle. Vous pouvez ajouter du Xbox Live Arcade, qui n'est pas trop cher, sur votre compte avant de vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate. Et quand vous vous abonnez pour 1 euro, je crois, pour le premier mois, eh ben, ça vous convertit vos mois de Xbox Game Pass en mois vos mois de Xbox Live Arcade en mois de Xbox Game Pass. Donc moi, j'ai comme ça 3 ans de Game Pass. Peut-être que ça me plairait moins. Les gens se marrent à chaque fois. Mais c'est une super affaire. Peut-être que ça me plairait moins si je devais payer vraiment les combien 12-13 euros par mois pour de vrai. Mais là, c'est à 6 euros par mois. Effectivement, c'est un bon deal. Et puis Disco Elysium, auquel j'ai pas joué, mais plus j'en entends parler, plus ça m'intrigue. C'est un jeu de rôle isométrique. Ouais. Alors, je vais vous résumer, hein, parce que moi, c'est juste sur ce que j'en ai entendu, mais là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'il est super bien écrit, et on a en fait une trame, une histoire assez noire, qui n'hésite pas à partir dans des sujets compliqués, des sujets politiques, des sujets philosophiques, et chaque élément de notre psyché peut discuter avec nous et entre elles. Donc, si on rencontre quelqu'un qui défend les droits des travailleurs, il y a des sujets politiques, on peut dire « Ah ben, vas-y, réfléchis à ce sujet, peut-être que ça va t'intéresser », mais ça va dans tous les sens. On peut rencontrer quelqu'un qui défend la suprématie d'une certaine race. Et donc, on va se dire « Bon, ben, je vais réfléchir à ce qu'il m'a dit ». Et si on finit par considérer que la chose qu'il disait était cohérente et aller dans cette direction, eh ben on devient un petit peu raciste, mais on a des bonus et des malus dans un sens, et on a les éléments de notre psyché qui va nous dire, alors la partie rationnelle qui va dire quelque chose, la partie émotive qui va dire quelque chose, et nous dire, ah oui, mais c'est là que l'analogie avec le film Disney, comment il s'appelait, Vice-versa,
Inside Out,
oui. Je crois qu'en français, c'était vice-versa, je ne sais plus.
Ouais.
Qui va nous dire, une partie de notre tête, qui va nous dire, ah oui, mais si tu dis ça, si tu penses ça, ce n'est pas bien parce que tel et tel truc. Et, bref, je ne fais pas un très bon job pour vous le décrire. Ça a l'air intéressant. Moi, j'ai assez peu de temps, surtout en ce moment avec tous les voyages. Mais c'est un jeu qui mérite peut-être votre attention si vous aimez les jeux de rôle, mais assez verbeux. Hein. C'est très long, c'est que en anglais. Donc, ça ne sera peut-être pas pour tout le monde, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Voilà pour les jeux du moment. On va avancer avec Google Stadia qui a annoncé son lancement. Alors, c'est quoi le contraire des grandes pompes, mais en petite pompe pour le 19 novembre. Et en plus, tous ceux qui ont pimpon au niveau de la... C'est chez Thomas, la conférence, c'est un truc important à annoncer. Donc, le 19 novembre, en petite pompe. Et en plus, les gens qui ont acheté l'accès n'auront pas accès immédiatement au moment du lancement. Ça va s'étaler sur 2 semaines pour tous ceux qui ont acheté le Founders Pack et le First Edition Pack et le machin pack. Et en plus de ça, la manette Stadia qui devait se connecter en Wi-Fi pour jouer indépendamment de l'écran sur lequel on est, eh ben, elle pourra se connecter en Wi-Fi que quand on utilise le Chromecast, pas quand on l'utilise sur téléphone. Donc, bon, ce que ça me dit, moi, c'est que de plus en plus, ça confirme son statut de bêta payante et que le vrai lancement ne sera qu'en 2020. Ceci dit, j'ai retesté le streaming avec le Shadow PC quand j'étais de passage à Paris et bon sang que ça marche bien. Alors oui, bien sûr, il faut de la fibre, mais j'étais déjà convaincu qu'on allait arriver à un niveau où ça serait intéressant, mais franchement, la latence est quasiment inexistante. Ça marche super bien. Et ça marche super bien avec une petite start-up comme Shadow PC. Quand on aura les infrastructures d'une boîte comme Google ou Microsoft ou d'autres, ça va moi, je pense que ça va devenir une partie conséquente assez vite, ou pas conséquente, mais une partie inévitable du panorama du jeu vidéo assez vite, et que ça va grossir avec l'amélioration de l'infrastructure. Je sais qu'il y a plein de gens qui en doutent, mais encore une fois, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ceux qui en doutent sont ceux qui ne l'ont pas essayé. Et bien sûr que ça ne sera jamais aussi bien qu'un PC chez soi ou qu'une console chez soi, et qu'il y aura d'autres avantages et d'autres inconvénients, mais penser que ça ne va pas jouer dans l'industrie, c'est vraiment ne pas, simplement ne pas l'avoir essayé, ne pas avoir mis les mains dessus. Donc, on verra maintenant dans quelques semaines, avec l'arrivée de Stadia notamment. Quelque chose à dire sur Stadia ou le streaming, où on avance ?
Avançons,
ok, vous en foutez. Vous aurez beaucoup plus à dire sur Fortnite. Ouais, Thomas ?
J'ai beaucoup à dire sur Stadia, mais pas aujourd'hui.
D'accord, on en reparlera à un autre moment. Fortnite a passé son chapitre 2 avec un événement qui a marqué toute l'industrie. Ils ont détruit Fortnite, c'est-à-dire qu'au moment M, ils ont envoyé toute la carte et tous les joueurs dans un trou noir, et le jeu n'était plus accessible pendant 2 jours, ce qui est le truc. Enfin, ils continuent à casser absolument toutes les règles chez Epic. C'était un événement qui a fait énormément parler de lui. On se doute que c'était un habillage intelligent à un changement d'infrastructure ou une update des serveurs, ce genre de choses, qu'ils auraient dû le mettre offline de toute façon pendant un moment, mais c'était tellement bien fait. Moi, j'ai déjeuné avec un ami qui a 2 jumeaux de 9 ans, 2 jours après, et il me disait, mais mes petits, moi, ils ne comprenaient pas, ils pensaient que Fortnite, c'était fini. Genre juste que c'était terminé. Et c'était très drôle de voir l'effet que ça a eu sur différentes personnes. Et Epic qui oublie, est prêt à abandonner cette partie de leur revenu pendant un moment du jeu, même si le store était accessible pendant une partie du truc, mais quand même, c'était assez impressionnant. Et évidemment, ça a généré énormément de bruit autour du jeu. J'imagine que vous en avez tous les deux entendu parler. Lola, toi, tu étais frustrée de ne pas pouvoir faire tes sessions quotidiennes de Fortnite.
Alors, il faut savoir que je suis une très piètre joueuse de Fortnite. J'ai essayé il y a un temps, et que construire et faire pan-pan en même temps, je n'y arrive pas. C'est 2 cerveaux différents, je ne peux pas faire les 2.
Écoute, mais sur les premières parties, maintenant, on est contre des bots. Donc, moi, je me suis dit, peut-être que je pourrais reprendre. Si je suis contre des bots, ça me donnera le plaisir de gagner. Mais...
C'est ça, et puis un petit peu moins de honte en fin de session. Non, mais par contre, même si je ne joue pas à Fortnite et que je ne suis pas au taquet tout le temps, j'ai été regarder cet événement et je trouve ça brillant, en fait. Enfin, d'un point de vue événementiel, c'est tellement bien pensé. Ils ont tellement tout géré, que ce soit les réseaux sociaux en même temps qui ont affiché le trou noir, tout le monde en a parlé, même les gens qui s'en foutent de Fortnite. J'ai été regarder des joueurs vivre le truc en stream, j'ai regardé des replays et l'émotion que ça a créé, moi je trouve ça dingue. Enfin, je sais que j'aurais été gamine à l'époque actuelle, joueuse de Fortnite, j'aurais été mais tellement subjuguée par le truc. Moi je trouve que ça a été vraiment très très intelligent. Et puis, créer de l'absence pour redonner un peu d'envie sur le jeu, je pense que c'est une très bonne idée. Parce que quand on est installé, qu'on a sa routine, qu'on y joue tous les jours, faire en sorte que pendant quelques jours, ça soit inaccessible, ça va redonner une espèce d'élan, je pense, à la machine, même si elle n'en a pas perdu tant que ça non plus. Mais non, je trouve que c'était très bien foutu. Et même en termes d'exécution, le fait que ça soit passé sans encombre, que tout soit passé comme prévu, je crois pas qu'il y ait eu de leak, je crois pas qu'il y ait eu de bug non plus. Moi, je trouve que c'est vraiment un exploit qui restera dans la mémoire du jeu vidéo sur l'année 2019. Enfin, c'est un grand moment, je trouve, et je trouve ça vraiment chouette.
Il y avait eu un tout petit leak, mais pas grand-chose quelques jours avant. Thomas, j'imagine que toi, en tant qu'observateur de l'industrie, ça t'a frappé aussi, non ? Ah, t'es muté. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des bips.
Il va y avoir des trains qui passent.
C'est ça, ouais, des trains qui passent.
Non,
on ne t'entend pas, ça coupe. Bon, formidable, effectivement. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point. Bah écoute, essaye de te redéplacer encore à un endroit que, pour lequel tu peux, ou d'où tu peux nous parler, parce que j'aimerais que tu nous parles un petit peu de l'élection du comité de pilotage de l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit ? C'est le comité qui va, enfin, l'Académie qui va être en charge de sélectionner les Pégases, qui est donc un petit peu les Césars, les Oscars du jeu vidéo en France, les Game Awards du jeu vidéo en France. Et ils viennent donc de bah dis-nous, parce que tu vas mieux le faire que moi je vais dire des bêtises. Est-ce que tu es maintenant dans un endroit d'où tu peux nous parler ?
Très bien. Oui, alors l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo, c'est une nouvelle initiative qui a été lancée au Game Camp 2018. Comme première idée d'avoir des awards, on va dire, autour de lesquels toute la profession française se réunit, au lieu des awards qui sont gérés plus, on va dire, par des entités privées dans ce qui a pu exister auparavant. Et l'idée, c'était effectivement de donner la voix aux professionnels pour comment gérer ces awards, quelles sont les catégories, etc. Alors, c'est une initiative qui vient du SNJV à la base, mais l'idée, c'est d'avoir ce comité de pilotage formé par des membres des professions. Comité de pilotage qui ne décide pas qui gagne ou ce genre de choses, mais qui décide de comment, quels sont les awards, est-ce qu'il y en a 10, est-ce qu'il y en a 15, est-ce qu'on fait un award différent pour la PC, pour le PC et la console, est-ce qu'on fait un truc pour le jeu indé, le jeu AAA, qui sont des décisions très importantes et qui définissent la direction. C'est aussi qui vont définir les modalités pour les votes, etc. Mais l'idée, c'est d'avoir donc ces collèges. Il y avait un peu plus de 1000 inscrits aux dernières nouvelles, qui sont donc il y a 6 catégories. Il y a programmation, design, il y a art visuel et audio, il y a management, il y a le publishing, il y a la 6e catégorie qui regroupe tous les autres, donc les podcasters par exemple.
Ah, ils vont décerner un prix à un podcasteur ?
Alors. Oui, il y a en l'occurrence, alors podcaster non, il y a influenceur je crois.
Ah merde, je suis trop petit pour être influenceur, je ne fais qu'un maigre podcast. Oui, mais
l'idée c'est pas de faire un concours de popularité, l'idée c'est de faire un award pour la personne qui fait, on va dire, le
meilleur travail, c'est moi, ok.
Le meilleur travail du point de vue des professionnels de l'industrie du jeu vidéo.
Ah mais merde, on a dit du mal de Blizzard. Ils ont énormément de pouvoir. Attendez, je vais aller éditer l'émission.
En France,
c'est quand même une grosse boîte. Non, mais c'est bon, ouais, je vais éditer, on va supprimer la partie Blizzard, ça sera très bien. Je veux bien mon
on
prix
de... On va faire un podcast de 10 minutes.
Ouais, c'est ça. Non, en fait, moi, ce que j'aimerais avoir, c'est le prix du plus beau podcasteur de France. Tu vois, je suis très superficiel comme garçon. Donc, si tu pouvais leur suggérer de créer ce prix-là, je suis sûr que ça pourrait fonctionner.
Eh bien, écoute, contacte les gens des différents comités et puis tu peux commencer ta campagne. Hein,
d'accord, très bien.
Mais voilà, donc cette élection est importante parce qu'effectivement, c'était une question de savoir qui seraient les gens, est-ce que les gens voteraient ? Donc, il y a pas mal de gens qui ont voté. Qui sont les représentants. Donc, moi, je vous invite à aller voir sur notamment les réseaux sociaux, savoir qui a été élu à quel poste. Mais c'est une initiative qui se lance. Les premiers Pégases seront remis en début d'année prochaine, si tout va bien, en fin Q1, si je ne dis pas de bêtises. Le mois de mars a été évoqué, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été confirmé de manière finale. Et le but, c'est de faire quelque chose qui, en termes d'ambition, est équivalent au BAFTA en Angleterre. Les BAFTA, c'est retransmis à la télé, c'est quelque chose de très très bien vu au niveau international en termes de awards de jeux vidéo. Donc ils ont une volonté de faire ces choses, on va dire, bien et de manière rigoureuse. Et voilà, je trouve que c'est une initiative qui vaut le coup de suivre.
Ouais, pour donner une idée de ce qu'ils vont faire, en tout cas ce qui est en projet aujourd'hui, il va y avoir les prix du meilleur jeu indépendant, meilleur jeu mobile, meilleur premier jeu, ce genre de choses, meilleur univers, meilleur personnage, comme tu le disais, meilleur influenceur. Ah non, mais c'est bon, j'ai trouvé, prix d'honneur, ça me va, ok, très bien. Donc voilà, et ça, la première remise, ça sera actif quand ? Ça sera 2020, tu sais ?
Alors, ça sera pour les jeux sortis en 2019, remis en 2020.
D'accord. Très bien. Eh ben, écoute, c'est effectivement une initiative intéressante et je crois que j'ai vu ici et là des ricanements sur les Pégases et je trouve que c'est assez, comment dire, short-sighted comme, comme vision. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas ce type d'initiative en France. Et au contraire, je trouve que c'est très positif et c'est par ce type de, comment dire, en politique, on appellerait ça de la diplomatie soft ou ce genre de choses, ou de la diffusion culturelle soft, ça peut jouer, quoi. Donc, je trouve que c'est pas mal et que ça donne un petit peu plus d'importance à l'industrie française, qui est toujours bon à prendre. Donc voilà pour les sujets principaux qu'on voulait évoquer. Il y a quelques news qui restent que je vais... exposé très rapidement. Fallout 76 va avoir un abonnement à $13, ce que c'est pour avoir des serveurs privés. J'avoue que je comprends pas bien la manière dont Bethesda fait les choses avec une initiative de ce type-là pour des gens qui se sont accrochés à Fallout 76 pendant des mois, maintenant peut-être même des années. Pour les serveurs privés, il faut payer et pas qu'un peu. Enfin, c'est $13 par mois. Je suis bon. Peut-être que c'est pour les gens qui veulent maintenir un serveur et qu'on n'a pas besoin de payer pour y accéder, mais quand même, c'est... Enfin bon, bref. Darksiders Genesis arrive dès le 5 décembre sur PC et Stadia. Donc, ce nouveau jeu de la série Darksiders, peu de temps après le 3, qui va arriver donc le 5 décembre, qui est vu de dessus, qui avait l'air pas inintéressant, donc gardez un œil dessus. La fonction Remote Play Together de Steam arrive en bêta. Cette semaine, elle est déjà arrivée, je crois. Donc, si vous voulez, je ne sais pas si elle est accessible pour tout le monde, mais c'est une fonction intéressante. Je ne sais plus si on en avait parlé la dernière fois, mais ça vous permet de jouer à des jeux multi en streaming avec des amis, comme s'ils étaient assis à côté de vous, en fait, avec votre jeu. Donc, vous leur streamez la vidéo et eux peuvent streamer les mouvement de manette, donc il faut avoir quand même une très bonne connexion, mais c'est une idée intéressante, je trouve. Et puis enfin, Final Fantasy XIV va avoir une partie du jeu avec l'univers de Nier Automata dès le 29 du mois, là. Donc, Nier, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de fans, et ça va être une petite partie, je crois. C'est pas un énorme élément, mais c'est en partie de Shadowbringers, donc la dernière extension de Final Fantasy XIV. Et ben, il y aura des éléments de Nier Automata si ça vous intéresse et que vous êtes fan de Final Fantasy XIV. Allez y jeter un coup d'œil. Voilà pour les différentes news qu'on voulait traiter. Merci d'avoir été avec nous. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous pouvez nous dire tous les deux où on peut vous retrouver ? Commençons par Lola. Tu nous disais développeuse du dimanche tout à l'heure ?
Oui, c'est bien ça. Développeuse du dimanche sur YouTube. On peut me retrouver aussi sur Facebook, Twitter, Instagram et Twitch. Et voilà, je vous invite à commencer à regarder mon format de journal de bord si ce n'est pas fait. Si vous avez envie d'apprendre un petit peu comment on fait pour développer des jeux, parce qu'un truc que j'ai envie de transmettre, c'est que c'est possible de faire des jeux pour n'importe qui. Je ne dis pas que vous ferez un jeu exceptionnel, mais n'importe qui peut se lancer. Donc ouais, développeuse du dimanche sur les réseaux et n'hésitez pas à me poser des questions ou envoyer des petits messages. Ça me fait plaisir de vous répondre.
Super, merci Lola. Thomas, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? J'allais dire ailleurs parce que tu es en plein dans le spiel, mais peut-être que tu n'y seras plus quand les gens écouteront.
Alors, sur les internets, je suis sur Twitter Icotom. C'est Otom. C'est là où j'interagis le plus. C'est le meilleur endroit pour me retrouver, je pense.
Super, bah, je mettrai le lien vers le compte Twitter de Thomas et de Lola dans les notes de l'émission, évidemment. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr. N'oubliez pas d'y aller pour les commentaires si vous avez des choses à dire sur tout ce dont on a discuté, en bien ou en mal d'ailleurs. Et puis, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, le rendez-vous jeu est désormais sur Patreon, patreon.com/rdvjeux. Non seulement ça vous donne accès à différents bonus, dont les épisodes spéciaux au moment de la BlizzCon dans une semaine environ. Donc ça, c'est un truc que vous ne voulez pas rater, je vous l'assure. Vous pouvez également avoir accès au niveau communautaire à ce fameux Discord où vous pourrez suivre ensemble tout ça et discuter ensemble. Ça sera sympa. Et en plus de ça, le but ultime de ce Patreon, eh ben, c'est de passer le rendez-vous jeu en hebdomadaire. Donc c'est un but qui est ambitieux, on y arrivera peut-être pas tout de suite, mais j'espère que vous appréciez suffisamment l'émission pour contribuer également, que l'émission vous plaît. Vous la suivez depuis 5 ans déjà, ça fait un bon moment qu'elle existe, et j'espère qu'elle vous apporte assez de plaisir pour que vous vous disiez, bah oui, allez, banco, un petit dollar par épisode, c'est pas grand-chose, deux petits dollars par épisode, c'est pas grand-chose. Vous pouvez soutenir comme ça, et vous aurez évidemment, le plus important, c'est la fierté de contribuer à du travail de qualité. Si vous avez des questions là-dessus, il y a un FAQ sur le site Patreon également. Donc tout ça, c'est sur patreon.com/rdvjeux. Merci à tous ceux qui soutiennent déjà. Et merci de nous écouter. On sera de retour dans tous les cas le deuxième jour de la BlizzCon pour un résumé de tout ça, ou alors un petit peu avant pour les Patriotes. Ciao à tous, à très vite.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.